embarquez sur le canal de la philo. Une émission proposée par Victor.
Tu l'as bien mérité. On a dit cette phrase, on l'a entendue positivement ou négativement. C'est une petite phrase du quotidien qui prend place dans tous les contextes. L'école est le temple du vocabulaire lié au mérite, et la société française dans son ensemble trouve dans cette valeur un étendard, au point de considérer notre régime politique républicain comme une méritocratie, littéralement un système où le pouvoir revient aux plus méritants. Les concours anonymes par lesquels l'État recrute ses fonctionnaires symbolisent bien cette idée. Dans le même temps, les études récentes sur l'école française montrent toutes qu'elle ne résorbe plus les inégalités. Elle tendrait même à les accentuer. Un rapport de l'Institut France Stratégie paru cet été montre que le milieu social d'origine, certains diront la classe sociale, est le facteur le plus décisif dans les trajectoires scolaires des enfants. Alors, est-ce le mérite individuel ou le milieu social qui crée la réussite? Plus largement, y a-t-il un sens à fonder un ordre social sur le mérite?
Au fil de l'eau, embarquez sur le canal de la philo.
Pour réfléchir à cette question du mérite, on peut le prendre sous deux aspects. D'abord, on peut se demander s'il est possible réellement de mesurer le mérite individuel. On s'interrogera donc sur le poids des déterminismes sociaux, par exemple, sur la notion d'effort et ce qu'elle suppose, ainsi que sur l'idée d'une volonté libre. Et puis, il y a une deuxième manière d'aborder le problème, c'est de se demander si, indépendamment du fait de savoir si, dans les faits, notre société est vraiment régie par le mérite, on peut se demander s'il est vraiment souhaitable de donner au mérite, en tant que valeur, un tel poids dans les discours de justification de l'ordre social. Voilà, un peu les deux aspects. Mais tout de suite, avant de traiter ça, on va voir les questions.
J'ai une question.
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 Les questions, donc, vous pouvez les envoyer sur l'adresse mail de l'émission au fil de l'eau, O-F-I-L-D-E-L-O, comme ça s'entend, au fil de l'eau, @pigouilleradio.fr, ou alors en passant par le site, par la section contact du site de Pigouille Radio, vous pouvez envoyer donc vos questions sur le format que vous voulez et avec la précision que vous voulez. Et peut-être à l'avenir, ça deviendra un peu le cœur de l'émission, dans un format donc un peu plus réduit qu'on va inaugurer aujourd'hui, puisque l'émission durera 30 minutes, et ce sera désormais sa durée. Voilà. Donc n'hésitez pas à envoyer vos questions, quelles qu'elles soient, donc, hein, sur aufildelot@pigouilleradio.fr. On a donc l'habitude d'attribuer la réussite ou l'échec d'une action au mérite de l'individu. Les efforts payent, le dilettantisme non, et la chance sourit aux audacieux. Il y aurait donc une bonne raison lorsque l'on réussit ou non, et la cause serait interne, elle résiderait dans la capacité à faire les bons efforts au bon moment. Derrière cette idée se trouve celle du libre exercice de la volonté, le libre arbitre, capacité de faire des choix, sans influence extérieure majeure. Si l'on trouve juste que la réussite revienne à celui ou celle qui fait les efforts nécessaires, c'est que l'on considère qu'il ou elle aurait pu ne pas les faire. Il y avait donc un choix, ce qui revient à considérer l'exercice d'une volonté libre. On ne dira pas qu'un gagnant au loto le méritait, sauf peut-être en s'attardant sur sa persévérance au jeu, si on ne considère pas que c'est une addiction. Mais sinon, le mérite ne s'applique pas, puisque c'est le hasard qui décide la victoire au loto. Pas de mérite. Le problème, si l'on veut s'assurer que le mérite est une notion valide, revient donc à se demander si les efforts consentis pour arriver à quelque chose sont libres ou non. Et c'est la vieille querelle du libre arbitre, en philosophie, qui a occasionné bien des livres, bien des théories. Jusqu'à quel point peut-on considérer que les choix sont libres? Alors vous avez les partisans de la volonté libre, du libre arbitre, vous avez Descartes par exemple qui pense comme ça. Puis vous avez d'autres philosophes qui disent plutôt que, en réalité, les choses sont plus complexes. Et c'est notamment le cas de Spinoza, dont j'avais parlé assez longuement dans le premier épisode de l'émission Au fil de l'eau. Je vous invite à retrouver sur le site de Pigouille Radio. Voilà, un peu d'autopromo. Spinoza, donc, lui a une théorie déterministe. Le déterminisme, c'est l'idée que nous avons l'impression d'être libres uniquement parce que nous ignorons les causes qui déterminent nos actions. Voilà. Alors, ici, le cœur du problème est bien là. Quelle est la cause de nos actions? Quelle est la cause de nos efforts, ceux par lesquels nous revendiquons notre mérite? Pour pouvoir mesurer le mérite individuel, il faudrait pouvoir s'assurer que la cause des efforts est intérieure, qu'il s'agit d'une preuve de la volonté libre de l'individu. Il ne faut pas qu'elle provienne de l'extérieur, sinon nous ne sommes que les jouets des causes extérieures et personne ne mérite mieux que les autres. J'évoquais dans l'introduction ce concept de méritocratie et en particulier le rôle de l'école. Dans la réussite scolaire, puis dans la réussite sociale, qui est bien souvent son prolongement, où doit-on situer le mérite réel? Ici, on peut aller voir du côté de la sociologie, qui est cette science qui étudie les régularités à l'œuvre dans la société. Et la sociologie constate de nombreuses tendances lourdes, et notamment celle de la reproduction sociale. On doit à Pierre Bourdieu, fameux sociologue français du XXe siècle, d'avoir souligné ce mécanisme dans la France de la fin du XXe siècle, justement. Et Bourdieu montre que les classes sociales ont tendance à se reproduire par transmission de capital. Voilà. Le capital peut avoir plusieurs formes. Quand on dit qu'il y a transmission de capital, évidemment, la première chose à laquelle on pense, c'est à l'argent, capital économique. Et oui, effectivement, par l'héritage, le capital donc se transmet de génération en génération et constitue un point de départ assez intéressant, pour ceux qui en ont, bien évidemment. Donc ça, c'est la première dimension, le capital économique. La sociologie distingue également le capital social, qui est, cette fois-ci, l'intégration dans la société, le réseau dont on dispose, les connaissances qui vont permettre de se lancer quelque part, de trouver des stages, de voilà, faire tout ça. Ça, c'est plus vraiment l'argent, c'est autre chose. Et puis, il y a une troisième forme de capital, peut-être la plus subtile, et celle qui m'intéresse le plus, là, dans cette discussion du mérite, que Bourdieu appelle le capital culturel. Capital culturel, ce sont les codes sociaux, ce qu'on appelle la culture. Par exemple, le langage, la maîtrise du langage. Des choses un peu symboliques, comme ça, mais qui sont finalement très concrètes. Alors, comment ça peut avoir de l'impact, ça, sur la trajectoire des individus? Eh bien, si on prend le cas des enfants, amener l'enfant à la bibliothèque, l'amener au musée, l'amener au théâtre, l'amener au cinéma, l'habituer à ce genre de choses, lui faire de la musique, ça constitue autant de manières de doter un enfant d'un capital culturel qui favorisera ensuite fortement sa réussite. Alors, plutôt que d'en parler moi, je vais laisser Pierre Bourdieu lui-même en parler. C'est un extrait d'un documentaire qui lui avait été consacré à la fin des années 90, qui s'appelle « La sociologie est un sport de combat », Bourdieu étant lui-même très engagé politiquement. Et justement, dans une émission de radio, il avait présenté un peu cette théorie du capital culturel.
C'est d'abord la langue, c'est une certaine maîtrise de la langue. Bon, la langue française, mais la bonne langue française. Bien sûr, tout le monde parle la langue française en France. Même les immigrés qui sont là depuis un an, ils parlent la langue française. Mais c'est une langue française qui n'a pas de valeur sur le marché scolaire. Bon, si vous parlez cette langue-là, vous aurez zéro. Bon. Alors, c'est la langue, c'est tout ce qui va avec. C'est ce qui s'acquiert dans les familles cultivées, c'est ce qui s'acquiert en écoutant papa raconter des histoires, en lisant les livres, en allant, même les livres d'enfants, etc. Bon, alors ça, c'est un capital, c'est-à-dire ce sont des ressources rares, inégalement distribuées, il y en a qui en ont plus que d'autres, et qui, du fait de cette inégalité de distribution, donne des profits. Bon, c'est des profits de rareté. Si tout le monde avait la même quantité, si tout le monde parlait parfaitement le français, sans accent, Il n'y aurait aucun mérite à parler français, donc ça n'aurait pas d'effet. Bon. C'est parce qu'il y a des différences que ça paye de bien parler le français. Bon, par exemple, un très beau travail qui a été fait par une sociologue américaine qui a montré que les enfants de classe moyenne, comme disent les Américains, ça veut dire bourgeoisie, les enfants de la bourgeoisie, savent bien donner à la maîtresse ce qu'elle veut. Bon, ils savent, bon, parce qu'ils sont du même milieu, leur maman fait pareil, etc. Alors la maîtresse leur dit mon chéri, mon mignon, mon poussin, etc. Alors ils sont contents, ils savent. Voilà, bon, et du coup, bah, ils sont bien vus, hein, comme on dit, et donc ils ont de bonnes notes, et donc ils sont contents. Donc il voilà. Donc, y a ça, il y a les facteurs qui tiennent au fait qu'il y a des pré-savoirs qui ne sont pas nécessairement scolaires, qui sont aussi importants. C'est comment se tenir, comment arriver, ne pas jeter le cartable par terre, etc. Tenir son cahier propre, etc. Bon, voilà. Il y a ça, et alors l'autre chose aussi, c'est assez lié à ça, c'est notre facteur, c'est à capital culturel égal, il y a un autre facteur d'inégalité, c'est la bonne volonté à l'égard du système scolaire. Bon, ce que on appelle la docilité, docilité, ça vient de, c'est le mot qui vient du latin, docilis, ça veut dire qui se laisse instruire. Mmh. Bon, qui est. Voilà. Alors, par exemple, la différence de réussite entre les filles et les garçons au niveau élémentaire, me semble-t-il,
enfin, les
filles réussissent mieux que les garçons. Moi, jusqu'à un niveau assez élevé de l'enseignement secondaire, en grande part, à toutes choses égales d'ailleurs, parce qu'elles ont plus de docilité. Alors, ça peut dire que c'est dans la nature des filles, c'est parce qu'elles sont dressées de manière à être dociles, et elles sont plus préparées à donner au système scolaire ce qu'il demande, c'est-à-dire de la bonne volonté, comme ça. Elle regarde la maîtresse comme il faut, ou le maître. Bon. Et ça paye, c'est récompensé. Étant récompensé, ben, ça renforce l'incitation, etc. Voilà.
Bourdieu fait donc le lien entre la réussite scolaire et le capital culturel, alors peut-être d'une façon qui semblera un peu caricaturale, mais d'une manière qui vise quand même assez juste, je crois, puisque on voit bien qu'il y a tout un tas de prédispositions, de pré-savoirs, qui facilitent fortement donc les réussites et les échecs à l'école. Alors si on suit cette logique, la réussite est essentiellement due au contexte dans lequel on se trouve, et donc le mérite devient illusoire. Et on pourrait même aller jusqu'à dire que finalement le discours du mérite fait partie d'une stratégie de domination des classes supérieures qui justifie ainsi le bien fondé de cette domination. On l'a bien mérité. Alors, ce discours a peut-être une limite. Cette limite, on la trouve dans les trajectoires de personnes transclasses. Alors, c'est quoi une personne transclasse ? Eh bien, c'est une personne qui parvient à changer de classe sociale. On parlait à une époque de l'ascenseur social. La rumeur dit qu'il est cassé depuis quelques décennies, mais cela n'empêche pas certaines trajectoires de présenter toutes les caractéristiques d'une rupture des déterminismes sociaux. Certains changent de classe en dépit de la possession d'un capital restreint. Ouf, la méritocratie est sauvée. Alors, l'est-elle réellement ? On peut déjà en douter quand on voit le faible nombre des exceptions. Parce que par nature, s'il y a des exceptions, c'est qu'il y a des régularités plus lourdes. Mais surtout, la seule existence de trajectoires transclasses ne règle pas tout. On pourrait en tirer l'idée que ce qui est possible à quelques-uns l'est à tout le monde, et le discours volontariste peut s'enclencher à nouveau quand on veut, on peut, battez-vous, en faisant les efforts, ça marchera. Le problème, c'est que les exceptions prouvent seulement que la classe sociale n'est pas le seul facteur de la réussite et de l'échec. Ça ne prouve pas que les efforts individuels peuvent naître de la seule volonté. La question qu'il faut qu'on se pose maintenant, puisqu'on a écarté l'idée d'un déterminisme social absolu, il faut se demander qu'est-ce qui explique la disposition à faire des efforts. Pourquoi certains font des efforts, d'autres non. Est-ce que c'est lié juste à une volonté ? Bougez-vous et ça marchera. Ayez de la volonté. Ou est-ce qu'il y a d'autres choses ? Alors plusieurs réponses sont à envisager. Et plusieurs choses sont à considérer. On peut d'abord évoquer la question des dispositions naturelles qui feront qu'un effort sera davantage payant pour certains que pour d'autres, en enclenchant ainsi une dynamique auto-entretenue, finalement. Par exemple, si j'ai le sens du rythme, ou si j'ai l'oreille absolue, l'effort d'apprendre un instrument de musique sera gratifiant. Et une heure que je passe à travailler mon instrument produira beaucoup d'effets. Là où quelqu'un qui n'a pas du tout de rythme, qui entend très mal les choses, va passer une heure à faire la même chose et va en tirer beaucoup moins. Ce sera pénible, il n'apprendra pas. Autre exemple, si mon métabolisme me permet une endurance supérieure à la moyenne, l'entraînement sportif paiera davantage. Alors, c'est ce qui fait dire au philosophe américain John Rawls que, et je cite, « les mieux doués ont plus de chances, toutes choses égales par ailleurs, de faire un effort consciencieux ». Alors, les mieux doués, ça veut dire quoi? C'est pas toujours évident de savoir qu'est-ce qui touche à des caractéristiques naturelles, qu'est-ce qui touche justement au fait que par la volonté, on arrive à avoir un talent supérieur. Mais le problème, c'est que il faut savoir d'où ça peut provenir, cette disposition justement à travailler ses talents. Pour Rawls, les circonstances familiales peuvent compléter les circonstances sociales, dont on a déjà parlé, pour expliquer cette capacité à faire des efforts. S'il y a dans la famille des modèles, s'il y a des récompenses affectives à l'effort, des incitations, eh bien, ça peut être autant de causes extérieures qui viennent s'ajouter à des dispositions naturelles dont il est toujours difficile de connaître le poids réel. Alors, quand on a dit ça, que reste-t-il du mérite individuel? Eh bien, c'est très difficile à dire, en fait. En réalité, il est sans doute impossible d'en mesurer la part réelle dans la réussite de quelqu'un, tant les facteurs d'influence potentiels sont nombreux. On ne peut pas effectivement dire que la question de la volonté est totalement exclue, mais le problème c'est que quand on dit ça, on ne peut pas non plus démontrer que cette idée de volonté dans l'effort proviendrait uniquement de l'individu. La part du contexte est toujours très délicate à mettre en évidence. Alors, on a pu parfois accuser la sociologie de générer une culture de l'excuse en insistant sur la reproduction sociale. Mais comment ne pas voir que le discours du mérite, de l'effort, je me suis fait tout seul, comment ne pas voir que ce discours simplifie à l'excès le récit des réussites et des échecs, avec des effets qu'il faut interroger, peut-être des effets très dépolitisants. C'est-à-dire, bah, finalement, le problème n'est pas politique, le problème est individuel. Ça renvoie tout à la responsabilité de l'individu. Ça pose peut-être des problèmes assez larges pour la société. Mais c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie.
Disposé à marcher en bande et à connaître la fouille, la bande détient le prétexte que cherchent les patrouilles. Disposé à s'unir en amis de la cité, à subir les familiarités, à mûrir trop loin de l'égalité. Disposé à être tutoyé par toute institution, institution méprise et déplore ton élocution. Qu'est-ce qui pousse un jeune à garder l'argot et la démarche alors qu'il sort de l'horizon et qu'il prend de l'âge? Entre le jeune abonné au musée et celui à l'abribus, seul l'un des deux portera le poids de son habitus. On a les mêmes os, la même langue, le même sang, mais t'oublies un détail, genre d'accent avec lequel tu finis tes phrases. Tu sais que les riches sont pas plus libres que toi, eux aussi sont aliénés par leurs mots, leurs codes, leurs choix. Sauf que leur argot est bien vu, il est même courtisé. On dit du tien qu'il est bad, du leur qu'il est souligné. Leur style et leur mode sont juste plus prisés. En plus tu grandis et l'argot du préau n'est plus le consensus. De poids, de mesure, en fonction de ta voix, ton allure, ton aisance du langage, dans la guerre du langage. Ce monde peut cerner d'où tu viens et j'en ai pas dit plus. Humain, tu restes emprisonné par tes habitudes. Le quartier a ses règles, ses lois, son langage, son argot. Tu sais de quoi je parle, surtout quand t'es ado. Rempli de vivacité, tu sors du bahut, du chahut, contaminé par les expressions tordues de la rue. T'as vu, tu ramènes à l'école une manière de parler. Tu te la racontes, la manière de manier la langue et de tailler. Tes parents se sont dit, l'école change les nantis. Mais leur enfant grandit, veut parler comme un bandit. C'est une règle sociale, on s'adapte à notre monde. L'accent, le verbe, la phrase te reflète, te ressemble. T'as un arrière-goût du quartier, tu restes son ombre. C'est chaud, les mots qui te servent à parler reflètent l'écho des autres. T'as pas encore conscience que le langage est ton passeport. Plus tard faudra que tu parles bien ou bien que tu parles fort. Ton horizon d'enfant construit ta personnalité. Tes manières, ton argot te façonne comme personne n'a idée. Ça jouera sur le mariage, sur le choix du job, sur ton décor, sur le nom des gosses, sur le choix de l'école, de la musique que t'écoutes, de celle que tu comprends pas, des malheureux que tu écoutes et de ceux que tu n'entends pas. Si tu es de ceux qui ont grandi dans le gris des tours, l'oreille bien trop remplie par l'argot qui s'écoule, tu auras
auras tendance à être moins à l'aise au centre-ville que dans le quartier sensible où ta jeunesse a grandi tranquille. D'autres sont nés avec la chance d'avoir la langue dominante qui s'habille de l'accent des capitales scintillantes. En vrai, ils n'ont pas de mérite d'être nés où ils sont nés, mais ils ont le passeport dans la guerre du langage français. On a les mêmes os, la même langue, le même sang, mais j'oublie un détail, genre d'accent avec lequel je finis mes phrases. Ce monde peut cerner d'où je viens et j'en ai pas dit plus humain. Je reste emprisonné par mes habitus.
Voilà, une chanson dans le thème, le rappeur Rossé qui chante donc Habitus, c'est le nom de la chanson et c'est le nom aussi d'un des concepts principaux de Pierre Bourdieu. Questionnement aussi de la notion de mérite. Alors, s'il est très difficile philosophiquement de trancher le problème du mérite, qui renvoie donc finalement à celui de la volonté et des causes de nos actions, il est intéressant de s'interroger pour finir sur la signification sociale et politique du discours méritocratique. Alors ici, je ne m'interroge plus sur la pertinence théorique, on a vu qu'il était bien difficile de trancher, mais sur les effets concrets de ce discours. On peut considérer qu'il s'agit d'un discours incitatif, un discours d'exemplarité. Les efforts payent, il faut vouloir. C'est un discours qu'on trouve souvent présent dans le milieu sportif, par exemple, mais pas seulement. Hein, il imprègne toute la société, puisque on peut trouver du travail par le seul effort de traverser une rue. Bon. Mais essayons de voir un peu plus loin. Tout le monde ne peut pas réussir un concours, par exemple. Par définition, il y a les lauréats et il y a ceux qui ne le réussissent pas. Si ceux qui le réussissent l'ont mérité, ceux qui ont échoué aussi. Sinon, c'est pas cohérent. S'installe alors la double satisfaction pour les lauréats d'avoir le concours et de s'en sentir seul responsable. Et la double déception des refusés, qui non seulement n'ont pas le concours, mais qui en plus doivent s'en sentir également les seuls responsables. Alors, je disais tout à l'heure que l'ascenseur social était en panne, forme de boutade, alors ça pourrait sous-entendre qu'il faudrait le réparer pour qu'une méritocratie réelle puisse s'installer. Mais là, on doit aller encore un peu plus loin. Est-ce qu'il faut vouloir une méritocratie? Parce que même si l'égalité des chances était réelle, est-ce qu'il faudrait vraiment vouloir que le mérite soit le principe d'organisation de la société? C'est ce que vient mettre en doute le philosophe américain Michael Sandel dans son livre « La tyrannie du mérite », qui est sorti en 2020, pardon, donc il n'y a pas très longtemps. Il y montre qu'en fait, peut-être que l'un des maux principaux de notre société, c'est justement la méritocratie. Le discours de la méritocratie, en tout cas, qui est une impasse, parce que c'est un discours qui ne peut faire qu'accentuer l'exaspération collective. En effet, le discours méritocratique rend les vainqueurs arrogants, et elle humilie les vaincus. Dans l'extrait qui va suivre, Sandel parle de l'hubris des vainqueurs. Alors l'hubris, c'est un mot assez célèbre dans la philosophie grecque, c'est un mot grec donc qui désigne la démesure des humains, l'absence de limites, en général par rapport au divin, mais l'absence de limite dans l'arrogance, dans la prétention, qu'on retrouve donc dans la méritocratie.
L'insistance sans fin sur une juste méritocratie, fondée sur une adéquation entre position sociale d'une part, effort et talent d'autre part, a un effet corrosif sur l'interprétation que nous donnons de notre succès ou de l'absence de succès. L'idée que le système récompense le talent et le labeur encourage les gagnants à considérer qu'ils sont les auteurs de leur succès et les incite à mépriser les moins chanceux qu'eux. Par l'hubris méritocratique, les gagnants disent qu'ils sont sûrs de leur succès et oublient que leur ascension est due à la chance et à la bonne fortune. Ils disent à la fois qu'ils ont mérité leur destin et que les perdants ont mérité le leur. L'hubris des élites apparaît exaspérante à ceux qui l'observent du bas de l'échelle. Personne n'aime être méprisé. La foi des méritocrates ajoute l'insulte à la blessure. Penser que notre destin est entre nos mains, que si l'on essaye, on peut y arriver, est une arme à double tranchant, source d'inspiration en un sens, d'injustice dans un autre. Elle conduit à congratuler les gagnants et à rabaisser les perdants, même à leurs propres yeux. Ceux qui ne trouvent pas d'emploi et ne s'en sortent pas échappent difficilement au sentiment démoralisant qu'ils sont responsables de leur échec, qu'ils manquent simplement de talent et d'ambition pour réussir. En ce sens, une politique de l'humiliation
se distingue d'une politique de l'injustice. La contestation de l'injustice est orientée vers l'extérieur. Elle fait valoir que le système est truqué, que les gagnants l'ont manipulé ou ont triché pour arriver à leur fin. La protestation contre l'humiliation est psychologiquement plus pesante, car elle combine le ressentiment à l'égard des gagnants avec une solide absence de confiance en soi. Les riches sont peut-être riches parce qu'ils sont plus méritants que les pauvres. Les perdants sont, après tout, peut-être complices de leur mauvaise fortune.
Merci beaucoup Anne pour cette lecture, cette belle lecture du texte de Sandel. Alors c'est un texte très intéressant avec des formules qui résument bien tout, hein, quand il parle d'ajouter l'insulte à la blessure, et quand il fait aussi cette distinction entre la politique de l'injustice et la politique de l'humiliation. Parce que c'est intéressant parce que la contestation de l'injustice, elle a paradoxalement un coût politique peut-être moins dangereux pour la société que la croissance du sentiment d'humiliation, qui lui ne va finalement trouver d'exutoire que dans la violence physique contre les autres ou contre soi, une souffrance psychique qui va, une frustration de plus en plus grande qui va avoir besoin de s'exprimer par ces canaux difficiles à contrôler, quoi. Et on peut lire comme ça les tendances politiques actuelles à la radicalité, à la désintégration de la possibilité même de dialoguer finalement parfois. Ça peut trouver ici vraiment un prisme de lecture intéressant. Les effets psychiques de l'arrogance pour les vainqueurs et de l'humiliation des vaincus sont en fait destructeurs pour la société. Et ici, peu importe la véracité ou non du discours méritocratique, peut-être que ceux qui font le plus d'efforts réussissent effectivement, peut-être que la réussite vient à ceux qui l'ont bien mérité, mais à force de le répéter, en fait, à force de répéter cette idée dont on a vu qu'elle était incertaine quand même, on crée des effets qui, eux, sont bien réels. Voilà. Cette idée, elle est incertaine, mais les effets, eux, ils sont réels. Et ce sont des effets qui ne sont peut-être pas souhaitables pour le bon fonctionnement de la société. On gagnerait peut-être à dépasser un peu ce discours du mérite qui, au fond, renforce encore plus les inégalités, renforce encore plus le sentiment de réussite ou d'échec des personnes concernées.
Monter dans la barque des livres.
La barque des livres qui nous mène donc dans les méandres de la rentrée et donc le retour un peu du sérieux, mais du sérieux accessible, puisque ce mois-ci je vous recommande fortement la lecture d'une BD. Une fois n'est pas coutume, une BD philosophique, puisqu'il s'agit d'une adaptation de l'éthique de Spinoza, dont j'ai pas mal parlé aujourd'hui un petit peu, et surtout lors du premier épisode de Fil de l'eau. Donc, l'éthique de Spinoza a été adaptée en 2021 par Philippe Amador aux éditions d'Uno Graphique, donc en BD. Alors ça, je trouve ça magnifique parce que c'est vraiment un effort de clarté tout à fait remarquable. L'éthique de Spinoza, c'est extrêmement difficile comme texte, c'est très aride, hein, c'est une suite de propositions qui s'enchaînent selon l'ordre logique, enfin c'est assez, y a vraiment, c'est compliqué quoi. Et cette BD, je trouve, rend les choses un peu plus claires par le dessin. Il y a un petit peu de dessin évidemment, c'est une BD, mais c'est aussi par le texte, on retrouve vraiment des citations de Spinoza, mais on trouve aussi des illustrations qui m'ont semblé extrêmement convaincantes. Donc voilà, plutôt que de plonger dans l'éthique de Spinoza et d'en sortir un peu dégoûté peut-être à la première lecture, ça peut constituer une vraie bonne introduction d'aller voir cette adaptation donc par Philippe Amador chez Duno Graphique de l'éthique de Spinoza en BD. On se retrouve le mois prochain.
Retrouvez Au fil de l'eau une fois par mois. Le mardi matin en première diffusion, en replay le samedi suivant, et sur le site de Pigouille Radio à l'heure qui vous chante. N'oubliez pas d'envoyer vos questions. Au fil de l'eau @pigouilleradio.fr.